Après les trois coups, le rideau s'ouvre. Les comédiens sont là, tapis dans l'ombre. Tous en scène, l'émission de Prune sur l'histoire du théâtre. Rencontre avec un auteur, extrait de pièces, interview, clin d'œil de la comtesse Rostropovitch, actualité de la scène nantaise. Anna vous entraîne chaque deuxième samedi du mois, de 12h à 13h dans les coulisses des théâtres d'ici et d'ailleurs, sur Prune 92 FM et en DAB+ sur Saint-Nazaire.
Bonjour, on est ensemble pendant une heure dans Tous en scène, l'émission de Prune sur l'histoire du théâtre. Tous en scène, c'est une heure pour découvrir un dramaturge phare de l'histoire du théâtre à travers l'une de ses pièces. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à Marivaux et sa pièce « Le jeu de l'amour et du hasard », car en ces temps compliqués, s'il y a bien une chose dont nous avons besoin de nous nourrir quotidiennement, c'est bien d'amour. J'en profite pour vous adresser à toutes et à tous tous mes vœux de joie et d'amour à consommer sans modération. Tous en scène, ce sont trois rubriques encadrant la pièce choisie. Pour débuter l'émission, un survol biographique, Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, plus communément appelé Marivaux, suivi de la lecture de quelques passages de sa pièce « Le jeu de l'amour et du hasard ». Puis, aujourd'hui, une interview de Jérôme Bretomé, metteur en scène, comédien, chanteur et danseur, et Jérôme nous parlera d'amour. Ensuite, une chronique légèrement décalée à travers le clin d'œil de la comtesse Rostropovitch scande la pièce choisie. La comtesse a été très gâtée en cette fin d'année 2020 et figurez-vous qu'on lui a offert un perroquet. Si, je ne blague pas, vous verrez, c'est Jeanne qui va être contente. Hein ? Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, je vous aime.
Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes.
Enfin, une ouverture sur l'actualité de la scène nantaise permet de terminer cette parenthèse théâtrale du deuxième samedi de chaque mois de 12h à 13h. Tous en scène, c'est donc parti avec comme première rubrique l'éclairage biographique.
Éclairage biographique dans Tous en scène sur Prune 92 FM en compagnie d'Anna.
Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux est né à Paris en 1688 et s'est éteint en 1763, alors qu'il est directeur de l'Académie française depuis 1759. Son père le destine à une carrière juridique et il entreprend des études de droit à Paris qu'il suivra en dilettante, préférant la vie des salons littéraires comme celui de Madame de Lambert, où il brille par ses talents de causeur. Même s'il fait jouer à Limoges une première comédie alors qu'il a tout juste 18 ans, il ne connaît pas la consécration de son vivant pour son théâtre, car trop novateur sans doute, même si ses pièces sont alors jouées à la Comédie française et au théâtre italien, il est délaissé au profit des tragédies de Voltaire, très à l'honneur en cette première partie du XVIIIe siècle et ayant pour thème des sujets qui s'ancrent dans l'histoire ou dans la mythologie gréco-romaine. Il faut dire que Racine, qui a excellé avec ce genre, est encore dans le souvenir de tous et toutes. De nos jours, Marivaux est considéré à juste titre comme le grand peintre français du cœur humain et on s'accorde à reconnaître qu'il a inauguré un nouveau genre théâtral qu'on peut appeler comédie de sentiment. Entendons ici non pas comédie sentimentale, mais univers où ce sont les sentiments individuels qui priment. Pour Marivaux, en naissant à l'existence, on naît à l'amour. Et on est bien loin des règles du XVIIe siècle où la question du mariage est réglée par les parents. En effet, celles que l'on a appelées les précieuses, et dont il est question dans la pièce de Molière « Les précieuses ridicules », ont œuvré en faveur de l'émancipation féminine, et cela commence à porter ses fruits au début du XVIIIe siècle. On peut alors aborder cette question de l'amour véritable plus librement. Et c'est ce que fait Marivaux, en portant ce sujet à la scène dans la majeure partie de ses pièces, où la question de l'amour véritable devient un sujet central et le mariage d'inclination prévaut. Ce qui intéresse Marivaux, ce sont les prémices de l'amour, c'est-à-dire ce qui se trame dans l'esprit des jeunes gens. Il se plaît à analyser cette phase où l'amoureux ou l'amoureuse se sent troublé, bouleversé par quelque chose qu'il ou qu'elle n'arrive pas clairement à identifier, jusqu'au moment où, enfin, il ou elle arrive à nommer ce qui lui arrive véritablement. Il est donc question d'explorer cet espace entre mon sentiment amoureux, encore à l'état d'inconscient, jusqu'à ce passage de la prise de conscience de cet état amoureux dans lequel on se trouve. Et Marivaux excelle en ce genre de la peinture de la passion naissante. Sans doute, pour parler aussi bien de l'amour, s'est-il appuyé sur sa propre histoire et a-t-il su lire dans ses propres ressentis. Dans ses nombreuses pièces, il passe en revue tout les différents états amoureux, de la naissance de l'amour à sa surprise, de l'inconstance amoureuse à la question des épreuves en amour, tout est passé au crible de l'analyse. Et ce sont bien des comédies psychologiques qu'il nous propose. S'interroger sur la conquête des cœurs par l'amour, voilà une vaste entreprise qu'il n'aura eu de cesse à renouveler à travers plus d'une trentaine de pièces qui s'emparent de ce sujet éternel. Car, comme je vous l'ai dit en ce début d'émission, s'il existe bien une valeur sûre et éternelle, c'est bien celle de l'amour qui est sans cesse renouvelé et réinventé à travers toute l'histoire de la littérature.
Voici venu le temps de la pièce choisie sur Prune 92 FM et en DAB+ sur Saint-Nazaire, en compagnie d'Anna pour l'émission « Tous en scène ».
J'ai choisi de vous parler de la pièce « Le jeu de l'amour et du hasard », comédie en trois actes et en prose, représentée pour la première fois le 23 janvier 1730 par les comédiens italiens à Paris. Cette pièce est sans doute la plus lue, la plus étudiée, la plus interprétée, la plus adaptée et donc la plus connue de Marivaux. Si l'on s'en tient aux propos tenus en 1989 par Frédéric Deloffre, grand spécialiste du théâtre de Marivaux, je cite « La célébrité de la pièce s'explique par la franchise de sa verve comique, par l'émotion qu'elle dégage, par la qualité de son écriture, enfin par le caractère de fraîcheur dont elle semble éternellement empreinte. » En effet, il est bien question de fraîcheur lorsque l'on parle d'amour, car lorsque l'on est amoureux, on a toujours 20 ans, quoi qu'il advienne. La dernière mise en scène de cette pièce que j'ai pu voir remonte au mois d'octobre 2018 au Théâtre de l'Aquarium à la Cartoucherie de Vincennes à Paris, dans une très belle mise en scène de Benoît Lambert avec Edith Mailander dans le rôle de Sylvia et Antoine Vincenot dans celui de Dorante, pour n'évoquer que les deux rôles dont nous allons vous parler et lire un extrait. Quel étrange sentiment cela nous procure-t-il que de penser à cette époque où nous avions encore le droit d'aller au théâtre quand nous le souhaitions. Puisse cette période heureuse revenir le plus vite possible pour le grand bien de tous et toutes. Dans cette pièce, donc, Sylvia est une jeune fille de famille bourgeoise qui est à la recherche de preuves d'amour. Être sûre de l'amour absolu de l'autre, au-delà de la fortune et des codes sociaux, voilà le but que semble s'être fixé Sylvia. Et pour cela, elle demande à son père de se travestir en empruntant à sa servante Lisette ses vêtements. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que Dorante, son futur promis, a eu la même idée. Et c'est de là que va naître ce quiproquo amoureux qui occupe toute l'intrigue de la pièce. Certes, c'est bien d'un jeu dont il est question, puisque les jeunes gens, Sylvia et Dorante, ont troqué, comme je vous l'ai dit, leurs vêtements de maître et de maîtresse avec leurs serviteurs respectifs, Lisette et Arlequin. Et dans le même temps, leur vie semble dépendre de ce quiproquo dont ils sont tous deux les initiateurs. Tenter à tout prix de sonder l'âme de Dorante et enfin l'entendre lui dire « Le mérite vaut bien la naissance, à l'acte 3, scène 8. Comme si toute sa vie dépendait de ces quelques mots que je vous traduis en un langage trivial. Je suis prêt à tout pour vous épouser, et même à descendre de mon rang, en m'unissant avec vous, qui êtes d'un autre milieu social que le mien, à savoir une servante. Puisqu'à ce moment de la pièce, Sylvia n'a pas encore dit, adorante, qu'elle avait revêtu les vêtements de sa servante, Lisette. Mais laissons là un peu de suspense. Sylvia, à part. S'il part, je ne l'aime plus. Je ne l'épouserai jamais. Il s'arrête pourtant. Il rêve. Il regarde. Si je tourne la tête, je ne saurais le rappeler, moi. Il serait pourtant singulier qu'il partît après tout ce que j'ai fait. Ah ! Voilà qui est fini, il s'en va. Je n'ai pas tant de pouvoir sur lui que je le croyais. Mon frère est un maladroit. Et s'il est mal pris, les gens indifférents gâtent tout. Ne suis-je pas bien avancé ? Quel dénouement ! Dorante reparaît pourtant. Il me semble qu'il revient. Je me dédie donc, je l'aime encore. Fais-nous de sortir afin qu'il m'arrête. Il faut bien que notre réconciliation lui coûte quelque chose.
Restez, je vous prie. J'ai encore quelque chose à vous dire.
À moi, monsieur ?
J'ai de la peine à partir sans vous avoir convaincu que je n'ai pas peur de le faire.
Eh, monsieur, de quelles conséquences est-il de vous justifier auprès de moi ? Ce n'est pas la peine, je ne suis qu'une suivante et vous me le faites bien sentir.
Moi, Lisette, est-ce à vous plaindre ? Vous qui me voyez prendre mon parti sans me rien dire.
Si je voulais, je vous répondrais bien là-dessus.
Répondez donc, je ne demande pas mieux que de me tromper. Mais que dis-je ? Mario vous aime.
Cela est vrai.
Vous êtes sensible à son amour. Je l'ai vu par l'extrême envie que vous aviez tantôt, que je m'en allasse. Ainsi, vous ne sauriez m'aimer.
Je suis sensible à son amour. Qu'est-ce qui vous l'a dit ? Je ne saurais vous aimer. Qu'en savez-vous ? Vous décidez bien vite.
Eh bien, Lisette, par tout ce que vous avez de plus cher au monde, instruisez-moi de ce qui en est. Je vous en conjure.
Instruire un homme qui part ?
Je ne partirai point.
Laissez-moi. Tenez. Si vous m'aimez, ne m'interrogez point. Vous ne craignez que mon indifférence. Et vous êtes trop heureux que je me taise. Que vous importent mes sentiments ?
Ce qu'il m'importe, Lisette ? Peux-tu douter encore que je ne t'adore ?
Non, et vous me le répétez, si souvent que je vous crois. Mais pourquoi m'en persuadez-vous ? Que voulez-vous que je fasse de cette pensée-là, monsieur ? Je vais vous parler à cœur ouvert. Vous m'aimez, mais votre amour n'est pas une chose bien sérieuse pour vous. Que de ressources n'avez-vous pas pour vous en défaire ? La distance qu'il y a de vous à moi, mille objets que vous allez trouver sur votre chemin, l'envie qu'on aura de vous rendre sensible, les amusements d'un homme de votre condition, tout va vous ôter cet amour dont vous m'entretenez impitoyablement. Vous en rirez peut-être au sortir d'ici, et vous aurez raison. Mais moi, monsieur, si je m'en ressouviens, comme j'en ai peur, s'il m'a frappé, quel secours aurais-je contre l'impression qu'il m'aura faite ? Qui est-ce qui me dédommagera de votre perte ? Qui voulez-vous que mon cœur mette à votre place ? Savez-vous bien que si je vous aimais, tout ce qu'il y a de plus grand dans le monde ne me toucherait plus ? Jugez donc de l'état où je resterai. Ayez la générosité de me cacher votre amour, moi qui vous parle. Je me ferai un scrupule de vous dire que je vous aime, dans les dispositions où vous êtes. L'aveu de mes sentiments pourrait exposer votre raison. Et vous voyez bien aussi que je vous les cache.
Ah, oh, ma chère Lisette, que viens-je d'entendre ? Tes paroles ont un feu qui me pénètre. Je t'adore, je te respecte. Il n'est ni rang, ni naissance, ni fortune qui ne disparaissent devant une âme comme la tienne. J'aurais honte que mon orgueil tînt encore contre toi. Et mon cœur et ma main t'appartiennent.
En vérité, ne mériteriez-vous pas que je les prisse ? Ne faut-il pas être bien généreuse pour vous dissimuler le plaisir qu'ils me font ? Et croyez-vous que cela puisse durer ?
Vous m'aimez donc ?
Non. Non. Mais si vous me le demandez encore, tant pis pour vous.
Oh, vos menaces ne me font point de peur.
Eh, Mario, vous n'y songez donc plus ?
Non, Lisette, Mario ne m'alarme plus. Vous ne l'aimez point, vous ne pouvez plus me tromper, vous avez le cœur vrai, vous êtes sensible à ma tendresse. Je ne saurais en douter au transport qui m'a pris, j'en suis sûr, et vous ne sauriez plus m'ôter cette certitude-là.
Oh, je n'y tâcherai point, gardez-la, nous verrons ce que vous en ferez.
Ne consentez-vous pas d'être à moi ?
Quoi ? Vous m'épouserez malgré ce que vous êtes ? Malgré la colère d'un père ? Malgré votre fortune ?
Mon père me pardonnera dès qu'il vous aura vu. Ma fortune nous suffit. À tous deux. Et le mérite vaut bien la naissance. Ne disputons point, car je ne changerai jamais.
Il ne changera jamais. Savez-vous bien que vous me charmez, Dorante ?
Ne gênez donc plus votre tendresse et laissez-la répondre.
Enfin, j'en suis venue à bout. Vous ne changerez jamais ?
Non, ma chère Lisette.
Que d'amour ! Puisque le théâtre en ligne semble trouver son public, allez sur le site de l'Officiel des spectacles et retrouvez une sélection de spectacles à visionner, dont la pièce de Marivaux, Le jeu de l'amour et du hasard, dans, justement, la mise en scène de Benoît Lambert, qui est disponible.
Enfin, un peu de pluralité avec ces voix nouvelles que nous réserve l'interview. Vous êtes bien sur Prune 92 FM et en DAB+ sur Saint-Nazaire, en compagnie d'Anna pour l'émission Tous en scène.
Aujourd'hui, dans le cadre de nos interviews du mois, nous recevons Jérôme Bretomé, comédien professionnel depuis 2002. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que cette interview a été enregistrée le lundi 28 décembre 2020. Bonjour Jérôme Bretomé.
Bonjour Anna.
Jérôme Bretomé, votre baccalauréat littéraire en poche en juin 2000, vous réussissez le concours d'entrée au Conservatoire d'art dramatique de Nantes, où vous suivez d'octobre 2000 à juin 2002 l'enseignement en art dramatique de Jacques Guillou, Michel Liard, Marilyn Leray et Gaëtan Recoquiller, l'enseignement du chant avec Thierry Joguet et celui de la danse avec Claude Brumachon, sans parler des différents stages que vous avez effectués sous la direction de Sylvain Maurice, Jean Boyot, Chantal David et Fabrice Evenot. Pour certains et certaines, faire du théâtre est une façon d'explorer la condition humaine. Et pour vous, le jour où vous avez décidé de prendre cette route du spectacle vivant, quelle a été ou quelles ont été vos motivations ?
Mes motivations déjà, je dois dire que j'ai commencé le théâtre assez tard, on va dire relativement comparé à d'autres. C'est-à-dire que j'ai commencé adolescent en début de lycée, fin de collège. Et puis, comme souvent, je vais dire une banalité, ça a été une sorte de révélation. J'avais, je pense, besoin de raconter des histoires, besoin de le faire devant des gens. Je pense que j'avais ce rapport-là au public qui était déjà assez fort. Le choix de le faire de façon professionnelle, ça s'est construit petit à petit. C'est-à-dire que j'ai surtout au conservatoire découvert des auteurs, des grands auteurs que je me suis mis à lire, à jouer. J'ai vu énormément de théâtre. C'est l'avantage du conservatoire, c'est qu'on peut aller dans beaucoup de théâtres avec des gratuités ou des avantages financiers forts. Donc j'ai découvert énormément de spectacles, peut-être plusieurs par semaine. Et je me suis dit que c'était absolument ça que je voulais faire. Donc je crois que j'ai un amour profond pour raconter des histoires, m'évader ailleurs, transmettre quelque chose à des publics, partager quelque chose. Voilà.
Et donc vous approfondissez ce temps d'études par des formations plus spécifiques de chant et de danse, univers qui tiennent aussi une place prédominante dans votre parcours, même si vous vous adonnez aussi à celui plus spécifique du jeu face à la caméra. Alors ma question porte sur cette différence. Qu'est-ce qui, selon vous, change au niveau du travail, du jeu, lorsqu'on est face au public et lorsqu'on est face à une caméra ?
Pour moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs qui disent qu'il y a une façon différente de travailler. Je crois que le point de démarrage, le point d'ancrage du jeu est globalement le même. On est des interprètes avec un personnage qui n'est pas nous, avec un texte qui n'a pas été choisi par nous à l'origine. Mais moi, je fais le même processus, si j'ai envie de dire. S'il y a une différence à faire éventuellement dans le avec le jeu caméra, c'est que très souvent dans le cinéma ou ailleurs, on est dans des décors naturels. Donc on a en plus, même si on fait abstraction bien sûr de toute l'équipe technique qui est autour, on a en plus le décor naturel qui nous projette dans une sorte de réalité qui n'est pas vraiment le cas au théâtre, où on est effectivement sur une scène où on doit tout reconstruire un univers. Donc ça fait une différence peut-être, où on est peut-être plus rapidement dans quelque chose de réaliste, d'immédiat au cinéma. Et puis on a aussi des micros, on est repris quelque chose où on peut parler très naturellement, chuchoter, sans se poser de problème. Voilà, parce qu'effectivement, on n'a pas le souci de l'acoustique qu'il peut y avoir dans des théâtres quand on est dans un projet qui n'est pas repris techniquement par des micros. Et il y a des acteurs qui disent des fois que au cinéma, on ne joue pas une émotion, on la vit, ou en tout cas, on la vit avant de la jouer, et qu'au théâtre, on se met d'abord à la jouer avant de la vivre. Il y en a qui disent ça. Bon, ça peut être une lecture possible, on va dire. Voilà.
Bien. Et alors, cette formation complète que vous avez suivie vous a conduit à jouer dans plusieurs compagnies nantaises. J'en citerai quelques-unes, comme le Théâtre des Cerises, la compagnie Le Chat qui guette, la compagnie La Tribouille, la compagnie Hall et les Astrolobies, pour n'en citer que quelques-unes. Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité d'une compagnie théâtrale? Et aussi, quelle différence y a-t-il entre une compagnie théâtrale et ce qu'on appelle maintenant un collectif, puisqu'on voit ce terme apparaître de plus en plus souvent?
Je dirais que la spécificité en général, il n'y a pas de nomenclature exacte, mais souvent une compagnie, c'est qu'il y a une couleur artistique définie, souvent qui émane d'une façon de travailler d'un ou d'une metteur en scène. C'est-à-dire qu'il y a souvent dans la compagnie un nom associé qui est une sorte de directeur artistique, de responsable de projet, qui va lui initier, la personne va initier les projets et ensuite engager d'autres artistes pour mener à bien ces projets. Et dans les collectifs, c'est souvent le cas en tout cas, on va dire que les décisions sont plus collégiales et les porteurs de projets peuvent voyager, c'est-à-dire peuvent changer. C'est-à-dire que selon le projet qui a été décidé ou voté, eh bien, ce n'est pas forcément le même responsable ou le même directeur artistique qui est à la manette. Donc c'est souvent ça la différence avec les collectifs, on va dire, je dirais. Est-ce que j'ai bien répondu à votre petite question?
Oui, merci. Alors, revenons à votre carrière et à une date qui me semble importante, 2018, qui est un peu comme un tournant dans votre carrière, puisque vous travaillez certes depuis plus de 18 ans avec le théâtre d'après en tant que comédien et metteur en scène, mais en 2018, vous créez une performance solo que vous intitulez « Penser, penser l'amour » avec deux orthographes différentes, P-E-N-S-E-R et P-A-N-S-E-R. Performance solo dans laquelle vous évoluez dans un univers que moi j'appellerais univers onirique, en tout cas c'est le souvenir que j'en ai, univers somme toute assez étrange, pour nous proposer votre regard sur l'amour à partir de textes d'Alain Badiou, extraits de son Éloge de l'amour, et aussi de poèmes, extraits de romans, chansons en lien avec cette thématique que chaque artiste finalement revisite avec sa vision singulière. Écoutons ces quelques extraits que vous nous faites partager sur l'amour.
C'est vrai, Paris a été couvert d'affiches pour le site de rencontres mythiques, dont l'intitulé m'a profondément interpellé. Je peux citer un certain nombre de slogans de cette campagne publicitaire. Le premier dit, et il s'agit du détournement d'une citation de théâtre, Marivaux, « Ayez l'amour sans le hasard ». Et puis il y en a un autre, on peut être amoureux sans tomber amoureux. Donc, pas de chute, n'est-ce pas? Et puis il y a aussi, vous pouvez parfaitement être amoureux sans souffrir. Et tout ça grâce au site de rencontre mythique, qui vous propose de surcroît, l'expression m'a paru tout à fait remarquable, un coaching amoureux. Vous aurez donc un entraînement qui va vous préparer à affronter l'épreuve. Moi, je pense que cette propagande publicitaire relève d'une conception sécuritaire de l'amour. Je suis convaincu que l'amour, en tant qu'il est un goût collectif, en tant qu'il est pour quasiment tout le monde, la chose qui donne à la vie intensité et signification, je pense que l'amour ne peut être ce don fait à l'existence au régime de l'absence totale de risque. Ça me paraît un peu comme la propagande qu'avait faite à un moment donné l'armée américaine pour la guerre zéro mort. C'est un peu le même monde tout ça, la guerre zéro mort, l'amour zéro risque. Pas de hasard, pas de rencontre. C'est pour cette raison que la propagande de mythique est fallacieuse. Elle fait comme si pour la sécurité de votre amour, vous alliez examiner les possibilités et prendre la meilleure. Mais ça ne se passe pas comme ça dans l'existence. Ce n'est pas comme dans les contes, avec le défilé des prétendants. Vous avez remarqué que partout, on vous explique que les choses se font pour votre confort et votre sécurité. Depuis les trous dans le trottoir jusqu'au contrôle de police dans les couloirs du métro. Eh bien, nous avons là les deux ennemis de l'amour, au fond. La sécurité du contrat d'assurance et le confort des jouissances limitées. Je crois donc que défendre l'amour est une tâche philosophique. Ce qui suppose probablement, comme le disait le poète Rimbaud, qu'il faille le réinventer aussi. Il faut réinventer le risque et l'aventure contre la sécurité et le confort. Ce que je tente de dire dans ma propre philosophie, c'est que l'amour est une construction de vérité. Vérité sur quoi, demanderez-vous? Eh bien, vérité sur ce point très particulier. Qu'est-ce que le monde quand on l'expérimente à partir du deux et non pas de l'un? Qu'est-ce que le monde examiné, pratiqué et vécu à partir de la différence et non à partir de l'identité? Je pense que l'amour, c'est ça. C'est le projet incluant naturellement le désir sexuel et ses épreuves, incluant la naissance d'un enfant, tiens, pourquoi pas, mais incluant également mille autres choses, à vrai dire. N'importe quoi à partir du moment où il s'agit de vivre une épreuve du point de vue de la différence. Une vie qui se fait non plus du point de vue de l'un, mais du point de vue du deux. Autrement dit, dans l'amour, vous avez un premier élément qui est une séparation, une disjonction, une différence. Vous avez un deux. L'amour, ça traite d'abord un deux. Et le deuxième point, c'est que, précisément parce qu'il traite une disjonction, il ne peut prendre qu'une forme hasardeuse ou contingente. C'est ce que l'on appelle la rencontre. L'amour s'initie toujours dans une rencontre. Et la rencontre entre deux différences est un événement, quelque chose de contingent, de surprenant. Les surprises de l'amour, encore Marivaux, le théâtre. Roméo et Juliette restant évidemment l'allégorie de cette disjonction, puisqu'ils appartiennent à des mondes amis.
À plusieurs reprises, en vous écoutant, j'ai eu envie de mettre le mot « théâtre » à la place du mot « amour ». Ainsi, cela donnerait, je vous cite, « Je suis convaincue que le théâtre, à la place du mot amour, en tant qu'il est un goût collectif, en tant qu'il est, pour quasiment tout le monde, la chose qui donne à la vie intensité et signification, je pense que le théâtre ne peut être ce don fait à l'existence au régime de l'absence totale de risque. » Ainsi, si amour et théâtre peuvent se superposer, faire du théâtre, serait-ce une forme d'acte amoureux?
On peut dire ça, on peut dire ça. En tout cas, de mon point de vue, ça l'est. C'est ce que je vis et je défends quand je suis sur scène. C'est vraiment un acte, sorte de cri du cœur, hein, mais dans le sens positif de cri. Donc oui, je pense que c'est un acte d'amour. Et puis c'est intéressant que vous fassiez cette comparaison parce que, comme vous l'avez dit en début de, en introduction, Alain Badiou, tout ce que je viens de lire, donc c'est extrait d'un essai philosophique qui s'appelle « Éloge de l'amour ». Et Alain Badiou a justement écrit son pendant qui s'appelle « Éloge du théâtre ».
Oui.
Il a fait la même chose en parlant du théâtre. Donc, lui, en tout cas, il le fait un comparatif
évident.
De miroir assez proche entre théâtre et amour. En tout cas, quand il dit que ça ne peut être ce don fait à l'existence en l'absence de risque, je crois évidemment que ça doit l'être. Ça doit l'être. Je pense qu'il faut, sur scène en tout cas, ne pas forcément aller vers les sentiers battus, dérouter, beaucoup interroger, que chacun reparte avec une lecture potentiellement différente de ce qu'il vient de voir, avec des choses qu'il aura marquées, d'autres moins. En tout cas, c'est ce que j'ai mis dans Penser l'amour, où c'est une sorte de projet, de spectacle à tiroir, où chacun va se sentir totalement concerné tout d'un coup, comme un vrai acte de partage d'amour dans ce qu'il va entendre. Je pense que oui, c'est un véritable... On peut vraiment comparer ce qui se passe sur un plateau, sur une scène, avec une relation amoureuse. Oui, parce qu'il y a relation de toute façon. Il y a une rencontre, comme dit Alain Badiou, il y a quelque chose qu'on ne peut pas saisir dans le théâtre. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose à l'instant T entre le public et les comédiens qui sont sur scène. Et donc c'est une rencontre, tout comme l'amour. Ça s'initie là-dessus.
Oui. Alors, dans votre spectacle Penser l'amour, que j'ai eu la chance de voir le 30 septembre 2018 à Pollen à Nantes, dans le cadre du festival Pride and Art, j'ai le souvenir d'un parti pris de mise en scène qui m'a beaucoup touchée. Au milieu d'un décor où le blanc domine, on vous voit évoluer dans un aquarium, somme toute très important sur scène, tel un poisson qui danse. Alors, comment cette association de l'univers liquide vous est-elle venue avec l'amour ?
Alors, quand je travaille sur une mise en scène, je fonctionne beaucoup par flash. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de pensées qui me viennent quand je suis en train de lire les pièces que je vais éventuellement, sur lesquelles je vais éventuellement travailler. J'ai beaucoup d'images qui me viennent, d'idées. Et si j'ai tous ces flashs, je me dis que c'est là-dessus déjà que je vais travailler. Et après, je fais le tri dans tout ça. Et si j'ai eu cette idée de l'aquarium, c'est que j'avais vraiment, si vous voulez, l'élément, parce que je voulais qu'il y ait des éléments, si vous voulez. Comme vous l'avez précisé, il y a un décor tout blanc, un peu aseptisé, qui ferait presque penser à un showroom d'une marque de qui vend des meubles. Et justement, où rien ne déborde, un peu pour voilà, cette vision qu'on peut avoir, certains qui peuvent avoir de l'amour, j'en parle un peu dans ce que défend notamment cette ancienne propagande politique. Et puis qu'au fur et à mesure, des éléments donc insaisissables par définition débarquent dans ce décor, donc à la fois l'eau, maintenant dans la nouvelle version, il y a de la terre, il y a du sang aussi qui débarque, pour ne pas tout dire. Et donc l'eau, c'est un élément, si vous voulez, dans lequel on peut se mirer, on peut se noyer dedans, on peut se laver. Il y a plein de termes qui peuvent être associés à l'eau, et vis-à-vis de l'amour, justement, se laver, se mirer, se noyer. On peut se noyer dans l'amour, on peut se reproduire des choses par amour, on peut se laver d'une histoire d'amour. Donc j'avais envie qu'il y ait cet élément comme une sorte de mise à nu aussi dans l'eau, pour se laver de quelque chose, repartir de quelque chose. Et puis c'est vrai que l'image de la... De quelqu'un dans l'eau, c'est hautement théâtral, hein, ne serait-ce que... Alors, il y a plein d'images possibles, mais on peut retenir celle d'Ophélie chez Shakespeare, hein, qui passe dans l'eau. Et c'est d'ailleurs un passage qui ressemble à ça dans le spectacle.
Oui. Voilà. L'idée de la réparation.
Oui, entre autres. Réparation, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais en tout cas, ce besoin de... Pour certains, soit de se laver, de pouvoir repartir de son moi profond, et en se lavant et en étant mis à nu, puis pouvoir aller de l'avant ensuite, ou carrément s'en remettre à la nature pour son destin. C'est un peu notamment pour certains, une issue fatale qu'est le suicide en allant se noyer dans l'eau. Voilà. Puisque là, il y a un volet de l'amour qu'on ne peut pas occulter, qui est la passion. Donc il y a tout un chapitre là-dessus. Comment vit-on ces amours, et notamment certains le vivent par passion. C'est un angle de vie de l'amour qui est dévorant, extrême, et ce rapport aux éléments me le faisait penser, en tout cas. Voilà.
Alors, dans le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, dont nous avons parlé dans la première partie de cette émission, Sylvia n'a de cesse d'éprouver l'amour comme si l'amour était un personnage à part entière. Il lui faut des preuves, des gages d'amour. Avant même d'avoir connu l'amour, elle en a peur à travers ce qu'elle a pu observer chez les autres. Et vous, alors qui avez travaillé et joué avec cet homophone, pensée P-E-N-S-E-R et pensée P-A-N-S-E-R, l'amour, on en est où en cette fin d'année 2020 avec l'amour? Et l'amour aurait-il besoin d'être soigné et soulagé plus que jamais?
Oui, je pense. Mais l'amour avec au sens large, je pense que je vais extrapoler avec les relations humaines. Vous l'avez redit tout à l'heure avec il faut réinventer le risque et l'aventure contre la sécurité et le confort. Et ce que j'ai l'impression, je ne parle qu'en mon nom, ce qu'on vit actuellement, il y a un gros retour, ou en tout cas, il y a une grosse place qui est laissée à la sécurité et à le confort. La peur envahit les uns et les autres, les unes et les autres. Et la peur, c'est exactement ce qui est dit dans le petit essai philosophique d'Alain Badiou, c'est que la conséquence, c'est une sorte de repli identitaire sur soi, qui peut être totalement légitime, de vouloir se protéger, se recentrer. Mais ça met, en tout cas de mon point de vue, ça met en danger l'amour dans son sens le plus pur, le plus noble, qui est accepter de prendre le risque, accepter de ne pas contrôler, accepter d'aller vers ce qu'on ne connaît pas, accepter d'aller vers les autres. Et en l'occurrence, bon, avec ce qui se passe à l'heure actuelle, en restant chez soi, en ayant des masques, en ayant tout ça, ça met à mal tout ça, à toute proportion gardée, avec bien sûr toutes les conséquences médicales, bien sûr. Je ne suis pas en train d'opposer les choses. Mais en tout cas, je pense que moi, je ne suis pas d'accord avec le fait de dire que tout ce qui nous est arrivé a produit un grand élan d'amour et de solidarité au sein des populations et au sein de la société.
Oui,
c'est plutôt l'inverse qui se produit.
On le voit bien dans le cadre de cette interview que nous sommes obligés de faire à distance avec un système improvisé d'enregistrement. On perd de toute façon en émotion sur des regards, sur le simple fait de se sentir plus proche l'un de l'autre. Cette barrière indéniable qu'est ici le téléphone et la distance qui nous sépare, on perd effectivement en gage d'authenticité, en tout cas. Et donc en gage d'amour.
C'est aussi très compliqué de faire notre métier de cette façon-là.
Oui.
C'est même antinomique. Donc, c'est qu'on, dans les relations, c'est un métier qui est basé sur les relations, sur le contact, comme vous parliez de regard notamment, si on pouvait retenir que ça, c'est extrêmement important. C'est compliqué de faire ce métier sans avoir tout ça.
Oui. On quitte finalement le sens de la vue pour donner davantage de sens à l'ouïe. Alors que le regard était sans doute peut-être, en tout cas plus sur la sellette, plus important à d'autres moments, je ne sais pas.
Je pense que l'un ne doit pas aller sans l'autre.
Comme il est question des deux dans le texte de Badiou aussi. Alors, je sais que depuis 2017, vous faites partie de l'équipe dirigeante de Comet. Je rappelle à nos auditeurs que Comet est une association qui a pour but de promouvoir le théâtre-éducation et que cette association organise chaque année plusieurs rencontres théâtrales de jeunes sur tout le département de Loire-Atlantique. Et également, vous accompagnez des amateurs en théâtre ou en chanson auprès des collèges, lycées et associations de notre département. Que retirez-vous de ces expériences multiples et quels conseils donneriez-vous à de jeunes gens qui souhaitent se lancer dans la voie théâtrale à notre époque ?
Alors moi, j'en retire un plaisir profond, intense. J'aime beaucoup transmettre, j'ai toujours aimé ça. Même avant de faire ce métier professionnellement, j'avais beaucoup travaillé dans le domaine de la jeunesse. Devoir partager un savoir, le faire évoluer au contact justement des différents publics parce qu'il évolue, c'est en voyant les autres travailler aussi que moi, ma façon de travailler, de faire mon travail grandit. En tout cas, voir des jeunes, pour ne parler que d'eux par exemple, des collèges ou des lycées, les voir évoluer, s'approprier des choses que je vais leur transmettre, c'est un plaisir fou de voir ça. Et puis c'est aussi, je crois qu'on peut faire des choses exigeantes, avec peu de choses, et qu'une rigueur qu'on a entre professionnels, elle est tout aussi transposable, bien sûr, en s'adaptant à chacun des publics, à chacun des parcours, elle est totalement transposable avec des amateurs au sens noble du terme, avec des élèves qui font du théâtre, que ce soit en parcours spécialité ou pas, et que moi j'aime apporter cette précision dans la façon dont je transmets dans mon travail. En tout cas, je n'arrive pas à faire autrement. Donc il n'y a pas de, même si je sais très bien que notre métier est comme beaucoup d'autres, mais en tout cas dans le nôtre il est assez cloisonné, contrairement, combien même on voudrait dire le contraire, il y a des cases. Pour moi, il n'y a pas de sous-profession au sein même de la profession avec un grand P, de faire de la mise en scène, ou du chant, ou de travailler avec des amateurs, ou de travailler en lycée, de faire de la transmission, ou d'être sur scène, ou de mettre en scène. En tout cas, moi, je n'arrive pas à faire autrement. J'ai besoin de faire plein de choses différentes. Et transmettre en est une facette.
Et ainsi, oui, excusez-moi, je vous coupe.
Ben, c'était pour répondre à la deuxième partie de votre question.
Oui.
Qu'est-ce que je conseillerais à des jeunes ? Oh là là, c'est pas évident de leur conseiller quoi que ce soit en ce moment, puisque la visibilité à court terme ou même à long terme est assez nuageuse, puisque tant qu'on ne peut pas récupérer nos outils de travail, qui sont donc les lieux dans lesquels on peut créer et jouer, c'est assez compliqué. Alors, on peut toujours trouver des parades pour travailler différemment et autrement, mais ça ne peut pas se réduire qu'à cela. Moi, je pense qu'il faut être très ouvert, s'intéresser à plein de façons d'écriture, de façons de thématiques, d'être très poreux aussi à ce que nous transmettent les professionnels qu'on rencontre, tout en gardant un vrai recul sur déjà sa propre identité d'artiste. Je pense que très très tôt, il faut pas être totalement maniable. Moi, je suis pas d'accord avec ça, qu'il faut exécuter bêtement ce que voudrait un pédagogue ou un metteur en scène. Il y a une vraie identité artistique qui doit se faire assez tôt, tout en étant un interprète respectueux de ce que souhaiterait, comment trouver sa liberté dans un cadre. C'est un peu ça ce que je dirais. Et il faut beaucoup, beaucoup de persévérance, parce que les rencontres fortuites qui se font comme ça, rencontrer un professionnel qui va tout d'un coup s'intéresser à soi, avoir envie de travailler avec vous, ça ne se produit pas tous les 4 matins, ça se produit, mais ça ne se produit pas tous les 4 matins, donc il faut être aussi force de proposition. Et je pense que le collectif, on y revient, est une vraie dynamique très intéressante, de toujours s'entourer pour mener des projets ensemble, pour être le moins isolé possible, puisque c'est un métier solitaire aussi. Voilà.
il y avait un mot qui me venait là, en vous écoutant parler de votre travail de transmission avec des jeunes gens et d'accompagnement, c'était le mot révélation. Le travail du comédien est un travail de révélation, peut-être un peu comme finalement le photographe utilise ses planches qu'il trempe dans différents bains pour révéler quelque chose.
Oui, c'est sûr. Enfin, en tout cas, moi, si je me mets du point de vue du metteur en scène, c'est ça mon travail, effectivement. Je vais essayer par tout un agencement de choses, par toutes les matériaux que j'ai, c'est-à-dire le matériau humain que sont les interprètes, les comédiens, le matériau qu'est la lumière, que sont le son, la musique, que sont le décor. Je vais essayer de faire tout ça une bonne recette pour révéler quelque chose. Et quand on est soi-même interprète sur un plateau ou de cinéma ou de théâtre, je pense qu'on se révèle quelque chose à soi-même quand tout d'un coup on malaxe les mots qui nous ont été proposés et que tout d'un coup on devient le personnage qu'on interprète. Il y a quelque chose qui se révèle à la fois à nous-mêmes et à l'extérieur. Il y a quelque chose de nouveau à chaque fois en fait qui se produit.
Oui, puisque les mots sont malaxés à chaque fois différemment en fonction de l'état dans lequel on est pour porter ces mots qui se réinventent sans doute chaque jour.
Je suis tous les jours surpris de comment ça sonne, j'ai envie de dire.
Oui.
À chaque fois que je reprends un texte ou que je quelque chose de nouveau, même un texte qu'on rejoue, joue et re-rejoue, je suis systématiquement surpris de voir comment ça sonne différemment à chaque fois et même comment je le réentends, parce que surtout par les temps qui courent, vous le disiez tout à l'heure, il y a des projets sonores qui se créent, notamment moi dernièrement j'ai réenregistré une pièce que j'ai jouée qui s'appelait Les Reines de Normand Chorette. Elle a été réenregistrée en pièce radiophonique. Mm-hmm. Et quand je la réécoute en studio, vraiment j'entends pas du tout ce que je pensais entendre, et donc je me dis que les spectateurs ou les auditeurs n'ont pas forcément entendu de la manière dont moi je l'aurais pensé, donc c'est toujours quelque chose d'assez déroutant, et heureusement.
Voilà. Oui. Vous nous disiez tout à l'heure, dans les extraits de votre spectacle que nous avons écouté, que défendre l'amour est une tâche philosophique, et que cela suppose probablement, comme le disait le poète Rimbaud, qu'il faille le réinventer aussi. Il faut réinventer le risque et l'aventure contre la sécurité et le confort. Avec cette période sans précédent que nous subissons, pour notre bien, nous dit-on, des théâtres, des salles de spectacle et de cinéma, des musées demeurent fermés, toute une partie du monde de la culture est à l'arrêt pour une seconde fois, depuis le vendredi 30 octobre 2020. Une interrogation s'impose. Peut-on encore réinventer le spectacle vivant? Vous y avez un peu répondu. Comment peut-on s'y prendre à l'aube de cette année 2021, et vous, comment vos projets trouvent-ils leur place dans cette redéfinition de l'espace théâtral?
Oui, donc j'ai un peu déjà répondu tout à l'heure, mais il faut de toute façon réinventer, ça c'est une certitude. Et puis je ne vais pas faire de langue de bois là-dessus. Moi, mes projets à l'heure actuelle, comment ils s'inscrivent dans ce marasme? Ben, ils s'inscrivent difficilement, pour être totalement honnête. Moi je pense que, et tant mieux pour eux d'ailleurs, que des projets qui avaient déjà qui s'étaient déjà initiés avant le confinement, avant ce qui nous est arrivé, qui étaient déjà dans des partenariats, dans des lieux identifiés, eh bien effectivement ils ont eu la difficulté, il y a eu un arrêt, mais ça va pouvoir se reprendre progressivement, et les calendriers, si tant est qu'ils le puissent, vont se décaler. Mais des projets qui étaient pas encore initiés, qui étaient au stade de l'écriture ou au tout début de recherche de partenariat, ces projets-là, il va y avoir énormément de difficultés à reprendre, voire à naître tout court. Pour une grande majorité, ils ne naîtront jamais parce que c'est, il y a des priorités qui sont faites. Il faut déjà relancer tous ces projets qui étaient déjà en cours. Les lieux de diffusion sont totalement saturés. Quand bien même on dit le contraire, il n'y a pas tant d'argent que ça, bien entendu. Les aides qui sont versées, et heureusement qu'elles le sont, servent à dédommager tous les gens qui n'ont pas pu travailler et à l'argent qui a été perdu. Mais il n'y a pas, j'ai envie de dire, budget supplémentaire pour réinitier de nouveaux projets. Donc, de toute façon, il n'y aura pas de miracle pour pouvoir tout d'un coup avoir une flopée de nouveaux spectacles qui vont arriver. Il y a une saturation énorme qui va se produire. Et donc, en l'occurrence, pour mes projets en particulier, qui ont dû s'arrêter au printemps dernier, je ne suis à l'heure actuelle pas sûr qu'ils puissent se reprendre. Puisque de toute façon, certains devaient reprendre au printemps, et qu'au printemps, vous voyez bien qu'il y a une visibilité encore très floue.
Très incertaine.
Ils ne peuvent pas reprendre, les répétitions ne peuvent pas reprendre au printemps parce que les gens ont peur de se réunir, parce que c'est des projets où il y a beaucoup de gens. Eh bien, je ne sais pas si c'est des projets qui résisteront à s'être arrêtés pendant 2 ans. Je pense que 2 ans, ce sera fatal pour ces projets-là. Et en l'occurrence, on parle de Penser l'amour, qui est toujours en retravail, puisque j'ai réinitié une nouvelle mise en scène, mais une réadaptation de la mise en scène que vous avez vue, qui est un peu différente. Maintenant, il y a des projections, il y a un grand écran. Je suis dans la difficulté de trouver des lieux pour pouvoir ne serait-ce que répéter, travailler. Mais moi, je veux bien répéter, mais il faut ensuite pouvoir montrer un spectacle. C'est l'issue logique, en tout cas pour moi. J'ai besoin de le partager, ce spectacle. Donc, si je ne peux pas le jouer derrière ou difficilement, j'ai envie de dire presque quel intérêt. Voilà.
Et alors, est-ce que c'est la question de l'espace théâtral qui est aussi interrogée en ce moment ?
Oui, moi je pense que on manque cruellement de lieux pour pouvoir faire notre métier, parce qu'ils sont saturés, et c'est tout aussi important, il y a beaucoup de lieux culturels, mais au sens plus large, socioculturels, qui sont énormément utilisés par des projets amateurs, des associations, et que nous, en tant que professionnels, on a accès difficilement à plein de lieux. Donc il faudrait, je pense, augmenter les créneaux, augmenter les lieux, avoir des protocoles beaucoup plus larges. Et puis, en l'occurrence, si je devais parler que de la localité de notre agglomération nantaise, je pense que il faut un accompagnement plus fort des projets locaux. Je pense que c'est pas assez visible encore. Voilà.
Vaste entreprise pour 2021.
Oui.
Il me reste à vous remercier, Jérôme Bretomé, en mon nom et en celui des auditeurs et auditrices de Radio Prune, pour ce temps passé avec nous. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que cette interview a été enregistrée le lundi 28 décembre 2020. Vous pouvez suivre l'actualité de Jérôme Bretomé sur son site Facebook, Jérôme Bretomé, B-R-E-T-H-O-M-E, accent aigu. Au revoir, Jérôme.
Merci, au revoir, Anne.
Et à bientôt sur les ondes de Radio Prune.
Merci à vous.
C'est l'heure du clin d'œil de la comtesse Rostropovitch sur Prune 92 FM.
L'amour. L'amour, l'amour. Dont on parle toujours. L'amour, c'est un printemps craintif, une lumière attendrie, ou souvent une ruine. L'amour, l'amour. C'est le poivre du temps, une rafale de vent, une feuille de lune. Dans la chanson, Marcel Mouloudji nous dit que l'amour, c'est un printemps créatif, car on a souvent besoin de difficultés à exprimer nos sentiments. Et plus loin, il parfait sa définition en nous disant L'amour, c'est le poivre du temps. Hé, hé, le poivre du temps. Belle métaphore pour nous dire simplement que l'amour nous délivre de l'ennui. Madame la comtesse Rostopovitch, et vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais un peu me charger de votre éducation sentimentale, soit dit en passant, pour faire un petit clin d'œil à mon ami Gustave, le grand Flaubert. Déjà, il y avait Anna, toujours en train de la ramener pour nous parler de la dramaturgie et de ce qu'elle nomme pompeusement les dramaturges phares. Maintenant, se voilà-t-il à plume verte, au gros bec crochu, assez doué pour l'imitation des sons et des paroles, j'y consens, certes. Mais ce donneur de leçons va finir par m'agacer. D'habitude, c'est moi qui tiens la vedette, et voilà ce perquet qui veut se charger de faire mon éducation amoureuse. Je rêve, quoi, qu'on me pince. Anna, je vous en prie, venez à mon secours. Jean-Pierre, aidez-moi, je vous en conjure.
Calmez-vous, comtesse, tout se passera bien. L'animalier chez qui la gentille bête a été achetée, Quai de Gesvres à Paris, nous a assuré du savoir-vivre de l'animal.
Et puis, comtesse, regardez comme il est sage. Il reste bien droit sur son perchoir. C'est un tendre, cela va vous faire du bien, un peu d'amour et de compagnie en ce mois de grand froid.
Ouais. Vous savez parler aux femmes, vous, Jean-Pierre. Quant au perroquet, je ne vais tout de même pas être obligé de cohabiter toute l'année 2020 avec cette espèce d'oiseau psittaciforme.
Psittaciforme ? Qui m'a traité de psittaciforme ? Non mais, moi qui m'évertue en ce début d'année à paraître agréable en vous chantant des grands tubes du répertoire de la chanson d'amour, vous me traitez comtesse Rostropovitch de psittaciforme. Attention, si vous recommencez à m'attaquer, un jour je pourrai bien raconter des choses.
Bien, très chers auditeurs et auditrices, je vous laisse en compagnie d'Anna pour l'actualité nantaise. Ah, j'oubliais, je vous adresse tous mes voeux tous mes voeux d'amour, puisque c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. Ah, qu'est-ce qu'ils ne me feront pas faire à l'antenne de Radio Prune.
L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle, s'il lui convient de refuser. Et rien n'y fait, menace sous prière, l'un parle bien, l'autre se tait.
Bonsoir, comtesse.
L'actualité de la scène théâtrale nantaise dans Tous en scène, c'est l'agenda d'Anna.
Ce mois-ci, comme vous le savez, les salles de spectacle sont encore fermées et ceci jusqu'à nouvel ordre, comme si c'était elles qui étaient contagieuses. Je vous laisse méditer. Hormis la visite régulière sur les sites des différentes compagnies de théâtre nantaises ou des salles de spectacle de notre ville, vous pouvez passer un bon moment en allant regarder le site de la compagnie du Café Théâtre à Nantes. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Tous en scène, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez pu écouter « Parlez-moi d'amour », chanson écrite et composée par Jean Lenoir et interprétée par Lucienne Boyer en 1930. L'amour, 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 chanson écrite par Georges Van Paris et enregistrée par Marcel Moulgy en 1963. Et l'air, l'amour est un oiseau rebelle, tiré de l'opéra Carmen de Georges Bizet, créé le 3 mars 1875 et interprété dans cette version par la très belle Julia Migène Johnson dans le film Carmen de Francesco Rossi, sorti en 1984. Et si vous êtes curieux, vous pouvez trouver en ligne la version de Maria Callas qui est aussi extraordinaire. Je tiens à remercier Jérôme Retomé pour ce temps d'interview qu'il nous a consacré. Je voulais aussi remercier Jean-Pierre pour l'interprétation du personnage de Dorante dans le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. Et bien sûr, un très grand merci encore à Jean-Pierre, à la réalisation, sans qui cette émission n'existerait pas. Et également, une très bonne année et un grand merci à toute l'équipe de Prune 92 FM. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur www.prune.net. On se retrouve samedi 13 février de 12h à 13h pour une nouvelle émission de Tous en scène qui sera cette fois-ci consacrée à Karine Serre sur Prune 92 FM. À suivre, toujours sur Prune 92 FM et en appui sur Saint-Nazaire, l'émission 100 ans de cinéma. Bonne journée à tous et à toutes et à très bientôt. Time is waiting in